Aujourd'hui dans le podcast AWS en français, nous sommes dans le monde de l'industrie, de la métallurgie plus précisément, et nous allons vous montrer comment l'apprentissage machine peut faciliter la tâche en matière de contrôle de qualité. Du podcast AWS en français. Merci de nous écouter, de vous abonner dans les différentes plateformes de podcasts. On est sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Music, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, si ça existe encore. J'ai entendu dire que ça allait être déprécié, Google Podcasts. Enfin, je suis certain qu'il y aura une autre solution de Google pour écouter des podcasts aussi. Vous êtes nombreux à nous écouter sur le site web, mais abonnez-vous dans les applications, comme ça tous les vendredis matin, avant de partir au boulot, vous avez le nouvel épisode de la semaine. Et cette semaine, je vous l'ai dit dans mon petit chapeau, on va rentrer dans le monde de l'industrie, de la métallurgie, de l'usinage de pièces métalliques, un monde que je connais pas, mais que mon invité Cédric Mauduit va nous faire un plaisir de nous expliquer. Cédric, tu es architecte de solutions chez Ugitech. Ugitech qui fait partie de Swiss Steel Group. Merci d'être là dans le podcast. Dis-moi, Ugitech et Swiss Steel Group, c'est quoi ?
C'est un groupe donc de métallurgie où on fabrique principalement de l'acier et de l'acier inoxydable. À Ugitech, c'est la business unit que je connais un peu le mieux. On fabrique de l'acier inoxydable, c'est-à-dire qu'on fond du métal, on fond des rebuts ou des chutes et des minerais un peu plus précieux pour obtenir le métal qu'on souhaite. Et après, on fabrique des barres en inox de tout diamètre.
Qui servent à quoi pour vos clients ? Qu'est-ce qu'on fait avec une barre en inox ?
Avec une barre en inox, on peut fabriquer beaucoup de choses. Nous, on adresse plusieurs marchés, donc le marché de l'automobile. Par exemple, on vend des barres pour fabriquer ensuite des pièces dans des injecteurs. Le marché médical aussi, où on peut faire des ressorts, par exemple, pour les stents, des choses comme ça. Il y a l'aéronautique, le nucléaire, enfin c'est très très varié. En fait, nous on est fournisseur de matières premières, donc matières premières nobles au sens du terme, je dirais. Et après, c'est nos clients qui transforment le métal pour en faire les pièces qu'ils souhaitent.
Et donc quand tu dis de toute taille, je comprends bien, tu parles de l'exemple d'un stent médical qui va dans une artère, oui, jusqu'à l'industrie nucléaire ou aéronautique, où là je suppose que les sections sont un peu plus grandes. Et quand tu dis une barre, c'est juste pour me représenter, c'est rond, c'est carré et c'est long ou c'est court?
Alors c'est très variable, parce que on a donc des barres en termes de diamètre qui commencent à 150 mm de diamètre, pour les plus grosses, et qui finissent à quelques micromètres, qui se font en gros l'épaisseur d'un cheveu. Par exemple, ça, on l'utilise ça dans les téléphones portables, dans les écrans tactiles des téléphones portables.
Ah oui.
Voilà.
Ah oui, 150 mm les plus grosses. Donc moi, tu me disais barre, oui, je pensais poutre, mais non, c'est 1,5 cm maximum.
Non, 150 mm. Donc
ah
c'est
oui,
15
cm, pardon. Oui. 15 cm, oui, ça fait la taille d'un CD à peu près. Pour ceux qui connaissent les CD. Bien.
Et voilà.
Merci de nous éclairer, nous, techniciens, plutôt informaticiens, sur ce monde de la métallurgie. Et justement, on va relier les deux. Quel était le challenge auquel tu étais confronté, qui t'a amené à la solution dont on va parler, qui est basée sur de l'apprentissage machine? Mais c'était quoi le point de départ, le challenge métier, le problème que vous souhaitiez résoudre?
Alors le challenge qu'on souhaitait résoudre, c'était que on a un centre de recherche à Ugine, donc à Ugitech. Dans ce centre de recherche, on fait beaucoup d'essais d'usinage sur notre matière, c'est-à-dire qu'on essaie de voir à quel point on arrive à usiner le plus rapidement notre matière avec certains outils. Et tous ces essais demandent beaucoup de manutention à des techniciens. En l'occurrence, ça leur demande d'aller vérifier toutes les 3 minutes l'usure de chacun des outils qu'ils sont en train d'utiliser pour usiner le métal. Et en fait, ils prennent donc l'outil, ils le posent sous un microscope, ils prennent une photo, ils détourent l'usure de l'outil, ils mesurent l'usure de l'outil, et ils vont reposer l'outil dans la machine. Ensuite, ils continuent leur essai, et ainsi de suite. Et en fait, cette opération de mesure de l'usure de l'outil est relativement fastidieuse, parce que ils doivent démonter l'outil dans un premier temps, Ensuite, ils doivent aller prendre une photo dans un microscope, sous un microscope. Ils doivent l'exporter dans un outil informatique cette fois-ci, faire un détourage de l'usure de l'outil avec des outils un peu graphiques. Et ça leur prend pas mal de temps. Ensuite, ils doivent remonter cet outil, la petite pointe de l'outil dans la machine et relancer leur essai.
Donc un usinage, juste pour être certain que j'ai bien compris, on fait tourner la barre métallique et puis il y a une pointe très très dure qui va venir graver ou user la barre métallique pour lui donner la forme que votre client voudrait utiliser. C'est bien ça un usinage. Et ce que vous mesurez, c'est la résistance de la barre en inox que vous produisez finalement, et donc l'usure des têtes de gravure qui vont usiner la pièce. J'essaie de reformuler pour m'assurer que j'ai bien compris. Est-ce que c'est bien ça?
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc nous, notre objectif, l'objectif donc du centre d'usinage, c'est de voir, de caractériser nos nuances, donc les types d'inox que nous fabriquons, et de voir à quel point ils peuvent être usinés vite et donc apporter de la productivité à nos clients. L'objectif final, c'est quand même ça. C'est de caractériser nos inox, donc les nuances d'inox, et de voir à quel point on arrive à être mieux que la concurrence.
Et et aussi pouvoir conseiller des têtes ou des matériaux pour des têtes à des clients, ou ça c'est plutôt standard, ou ça dépend de la résistance de l'inox également?
Ça peut se faire. On a en parallèle un petit système expert que nous allons bientôt lancer qui va nous permettre justement de faire des préconisations à nos clients de vitesse de coupe, donc la vitesse à laquelle ils peuvent usiner le métal en fonction des outils qu'ils ont, donc des pointes dures qu'ils ont en amont. Voilà.
Et donc dans vos labos, et on parle vraiment de recherche ici, de contrôle de qualité, en amont d'une production en masse, vous devez déterminer ou classifier en tout cas les différents types d'inox en fonction de leur facilité à être usiné. Et donc, comme tu disais, ça se fait, je répète ce que tu as dit, hein, juste pour être certain que je n'ai pas oublié et que j'ai bien compris, il faut démonter la tête de l'appareil, prendre une photo sous un microscope, détourer, moi je vois ça à Photoshop comme les graphistes, c'est vraiment de ça qu'on parle, et puis aller mesurer la différence avant, après, combien de millimètres ont disparu, et puis remonter la tête et continuer l'essai. Et ça prend du temps. Donc, avec quelle solution tu es venu, enfin, ou votre équipe est venue pour aider le business?
La première idée qu'on a eue, en fait, c'est tout simplement de se dire que peut-être qu'on pouvait essayer de détourer cette usure de manière automatique. En fait, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est ça. C'est simplement de détourer l'usure et de voir à quel point l'outil est usé ou pas, et mesurer cette usure. Donc, il nous fallait quelque chose de précis. Donc, qui marche plutôt bien, d'assez rapide aussi pour faire gagner du temps aux techniciens, et puis de reproductible dans le temps. Il fallait absolument que ce soit reproductible, sachant que via des manières déterministes, c'était quasiment impossible. En fait, on a essayé un tout petit peu, mais on a vite arrêté. On s'est assez vite penché sur des modèles de deep learning. Donc d'apprentissage et d'entraînement de modèles de deep learning.
Et donc l'idée, c'était d'apprendre un algorithme à faire le détourage pour vous et à faire la mesure pour vous, selon des techniques d'apprentissage. C'est de la classification d'image finalement, c'est de la reconnaissance d'objets dans une image.
Il y a un peu de ça. En fait, on a, alors sur pour être un peu plus précis, je dirais, sur cette partie d'apprentissage, enfin, ou de mesure de l'usure, on a trois choses à faire. La première chose à faire, c'est de réussir à détecter les contours de l'outil. Première chose, c'est vraiment détecter les contours de l'outil. Donc on a un premier modèle qui fait de la segmentation d'image, segmentation sémantique si je me trompe pas, et qui en gros détecte l'outil et le fond, en fait, qui est capable de nous dire notre outil est ici et le fond de l'image est à un autre endroit.
Donc il fait le détourage.
Parce qu'en fait, oui, exactement, c'est un peu du détourage, mais comme ça change pas mal et ça varie beaucoup, on a un fond aussi qui est pas forcément très uniforme et ainsi de suite. En fait, on pouvait pas faire ça de manière déterministe non plus. Ensuite, on a deux modèles qui tournent en parallèle au moment de l'inférence. une première partie qui va détecter une certaine usure, donc une entaille dans notre outil. Donc cette détection d'entaille, en fait, on l'a fait via de l'object detection. Donc détection d'objet toute simple, où on arrive à déterminer, notre objectif c'était de déterminer la hauteur de cette entaille grâce à une boîte de détection d'objet, tout simplement. Donc ça c'est une première chose. Et la partie un peu plus complexe, c'est qu'on a une autre usure sur laquelle on doit mesurer en gros la profondeur usée, la profondeur moyenne usée. C'est-à-dire que par exemple, sur 1 mm de large, on va avoir usé entre 0,11 et 0,15 mm, on va dire, par exemple, d'épée. Et grâce à une segmentation sémantique, on arrive à tracer un polygone et à mesurer l'aire de ce polygone, et ensuite à calculer l'usure moyenne en hauteur de ce polygone. En gros, la hauteur moyenne du polygone, tout simplement.
Et l'output final, c'est quoi alors?
L'output final, c'est on a deux outputs. En gros, la première, c'est la hauteur de l'usure en entaille, donc là, grâce à cette petite boîte. Et la deuxième, c'est la hauteur moyenne de l'usure qu'on appelle nous en dépouille, donc du polygone. C'est juste la hauteur moyenne. Et ça nous donne, en fait, du coup, à partir de tout ça, on arrive à trouver l'usure de l'outil et on arrive à savoir si notre outil a atteint ses limites et auquel cas on doit arrêter notre essai. Parce qu'en fait, on a des conditions d'arrêt de l'essai qui sont une usure moyenne sur la dépouille de 0,15 mm.
Pendant une séance de test, 0,15 mm. Donc, je répète, voilà. Il y a trois modèles. Un premier modèle qui détecte le contour de la pièce par rapport au fond, donc de la tête de la meule, enfin je ne sais pas comment on l'appelle, de l'appareil d'usinage, la tête qui va graver l'inox.
De la plaquette, on appelle.
La plaquette, merci de me de m'aider dans le vocabulaire. Et puis ensuite, vous avez deux autres modèles qui, eux, vont faire les inférences en parallèle. Un pour mesurer l'usure générale de la pièce et l'autre pour détecter s'il y a des entailles, des coups dans la plaquette, c'est bien ça? Et suite c'est à ça, vous avez l'usure, vous avez les chiffres qui ressortent, l'usure, et donc la personne qui opère le test peut décider s'il continue ou si il ou elle continue le test ou pas. Il manque une étape, alors ça c'est l'étape informatique, mais avant vous devez prendre une photo de microscope, donc comment ça se passe? Vous avez couplé le microscope à un système informatique pour envoyer les photos, ou c'est toujours l'opérateur qui doit démonter et prendre la photo, etc.?
Alors, pour le moment, l'opérateur doit démonter l'outil, la plaquette. Il doit la prendre en photo avec son microscope. Et ensuite, on a développé un petit outil, en gros, une application desktop, qui, elle, détecte qu'il y a une nouvelle photo qui a été prise, une nouvelle image qui a été prise, qui l'envoie dans S3 automatiquement, en fait, en temps masqué, quelque part. Comme ça, l'opérateur ne voit pas... ne perd pas de temps à uploader l'image dans S3 et ainsi de suite. Et ensuite, avec cette petite application, on peut lancer une inférence quasiment instantanément des modèles, des trois modèles, donc le premier et les deux en parallèle derrière. Ça appelle donc une API Gateway. En fait, la petite application desktop appelle une API Gateway qui, elle, va lancer une step function pour orchestrer les trois modèles. Et ensuite, on a une réponse de cette step function qui est lancée en express, de manière express. Comme ça, en fait, on reste synchrone avec notre API Gateway et ça nous permet d'avoir des temps de réponse d'environ 7 secondes. En l'occurrence, les 7 secondes sont dues à un traitement, on perd quelques secondes dues à un traitement après l'appel du premier modèle. On va essayer d'améliorer cette partie-là. Notre objectif étant d'être sous les 5 secondes à l'origine.
Donc je répète et je rephrase. L'opérateur prend la photo avec le microscope. Le microscope dépose la photo sur un, je suppose qu'il est connecté à un PC ou un truc comme ça. Et là-dessus, vous avez une application desktop que vous avez développée qui prend l'image, qui l'envoie sur S3 et puis qui appelle une API gateway pour déclencher la step function. La step function va aller relire le fichier d'S3 et déclencher le workflow d'inférence. Le premier, c'est le détourage, comme on a dit. Après le détourage, vous avez une étape de retransformation de la photo. Je suppose que c'est pour améliorer la qualité des résultats d'inférence des deux inférences suivantes. Et puis, vous faites les deux inférences suivantes en parallèle, générez des résultats et répondez de façon synchrone à l'application desktop qui attendait le résultat. Et tout ça, ça prend moins de 10 secondes pour le moment. J'ai bien compris ?
C'est exactement ça.
D'accord.
C'est tout bon.
7 secondes par rapport à combien avant, quand vous le faisiez manuellement, quand les opérateurs, opératrices le faisaient manuellement?
Pardon, à l'origine, on est aux alentours de 2 minutes 30, je crois, pour les opérateurs. Et il y a autre chose qui est intéressant, c'est que même si le modèle ne répond pas parfaitement à ce que les utilisateurs souhaitent, en fait, ça leur permet de gagner énormément de temps sur le détourage. Et après, la petite application desktop qu'on a développée, en fait, leur permet de faire quelques petites retouches sur la détection des usures. Et en l'occurrence, ça leur fait gagner du temps dans tous les cas. Et ça leur permet surtout d'être plus précis aussi. Ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'on a gagné en précision. Parce qu'en fait, comme ils gagnent du temps, ils sont un peu moins pressés pour caractériser exactement ou mesurer exactement les usures. Et ils peuvent être très très précis, ce qui aussi a un effet bénéfique, ça nous fait un cercle vertueux après, dans le sens où ça permet d'avoir des meilleures images pour réentraîner notre modèle par la suite.
Et j'allais y venir justement sur l'entraînement du modèle, mais j'ai encore une ou deux questions avant. De nouveau, pour m'assurer que j'ai bien compris, les opérateurs, opératrices font forcément un contrôle qualité sur les chiffres qui reviennent et ils ont les images à l'écran, donc ils peuvent voir si c'est cohérent, si ça colle. Je suppose qu'il y a un seuil de confiance également, il y a un taux statistique de dire le résultat c'est ceci, je suis sûr à X%, donc si le seuil est trop bas, ils doivent quand même faire la mesure à la main. Mais tu dis la chose qui marche bien, c'est la première partie, le détourage, donc ça de toute façon ils ne doivent plus le faire à la main.
En fait, on n'a pas besoin de seuil statistique dans le ou de seuil de validité des résultats, dans le sens où ils sont toujours en train de vérifier les résultats. En fait, c'est l'opérateur ou le technicien qui fait office d'acceptation,
de contrôle de qualité,
qui aiguille, de contrôle qualité de nos résultats. Mm-hmm. On aura toujours besoin d'un technicien parce que comme on est en train de faire des essais, on a besoin que les résultats soient fiables à 100%. Mmh. Et en machine learning ou en deep learning, on peut jamais s'assurer d'être à 100% sûr des résultats qu'on fait, d'autant plus que là, on doit mesurer quelque chose. Donc c'est pas de la détection d'objets où on peut dire je suis plus ou moins sûr de mon résultat. En fait, le résultat, il va être bon dans 95% des cas, mais pas parfait. Et en gros, il va être parfait peut-être dans 10-15% des cas. Mmh. Et si on veut pouvoir améliorer l'entraînement du modèle et les réponses, surtout de notre modèle à l'avenir, en fait, on demande aux techniciens de nous retourner des résultats parfaits à chaque fois. Et puis, ça permet surtout de caractériser au mieux nos nuances à chaque fois.
Alors, j'ai bien compris, et j'espère que les auditeurs du podcast aussi ont bien compris la chaîne et comment ça marche en production pour les contrôleuse qualité. Maintenant, comment vous avez développé ça? Parce qu'il y a deux parties. Il y a une partie choix des modèles, et je suppose, mais tu vas me corriger, que vous avez pris des modèles standards, off the shelf, on dit en anglais, de l'étagère, tu as mentionné Hugging Face. Et puis, il y a la partie entraînement, tuning des modèles. Donc, comment s'est passée cette phase? Vous avez probablement commencé avec un prototype, et puis il a fallu passer à l'échelle pour l'entraînement sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'images. Raconte-nous cette histoire.
Alors, d'ailleurs, pour ce projet, on s'est fait accompagner par un consultants externes, par un partenaire, exactement. On a fait toute une étape de modélisation. Donc, la première partie du projet, c'était une étape de modélisation. Cette étape de modélisation, pour cette étape de modélisation, nous avons utilisé la méthode CRISP. Donc, c'est une méthode itérative pour en gros qu'on a appliqué enfin qu'on applique sur la partie modélisation dès qu'on fait du machine learning à UJTech. Donc c'est tout simplement enfin voilà, c'est vraiment de l'itératif assez classique hein, je dirais, et à chaque itération l'objectif étant d'avoir avancé et de se poser une question à la fin de l'itération: est-ce qu'on continue sur une itération suivante, ou est-ce qu'on est arrivé à un niveau de qualité suffisant, ou on arrête la modélisation parce qu'on pense qu'on n'arrivera pas à obtenir des résultats suffisants. Donc, ceci dit, ben, on a tout fait dans SageMaker, tout s'est passé dans SageMaker sur la partie modélisation. Mm-hmm. La première étape, c'était de faire ce qu'on appelle un demi-modèle. Donc, c'est un modèle où on n'utilisait pas de machine learning. En gros, c'était un petit modèle qui était basé sur des statistiques. En fait, c'était le modèle à challenger, tout simplement.
C'était la base, la ligne de base, et il fallait que ça soit meilleur
exactement
que ça.
Ouais. Et il fallait qu'on soit toujours meilleur que ça. Si on faisait des modèles de machine learning, enfin en l'occurrence de deep learning, qui étaient moins bons que la baseline, on pouvait se dire que là, le projet n'allait pas, peut-être pas aboutir, ou je ne sais quoi. Donc, après, on a entraîné nos modèles de plusieurs manières. Ben, la première chose, c'était de voir en gros si c'était faisable et si on obtenait des résultats corrects en machine learning. Donc on a fait de l'auto-ML dans SageMaker, ce qui nous a permis en gros de voir que les résultats étaient assez bons. Pas tout à fait aussi bons que ce qu'on souhaitait, mais ça nous permettait de voir que, valider la faisabilité du projet.
Donc l'auto-ML, vous lui donnez un jeu de données à noter au début, et puis un jeu de données de référence. Il auto-entraîne sur le jeu à noter, et puis il utilise le jeu de référence pour voir si les résultats qu'il obtient correspondent aux attentes de départ. Je ne suis pas spécialiste d'auto-ML dans SageMaker, donc je parle sous ton contrôle de ce côté-là.
Je suis pas un grand spécialiste non plus, mais en fait, ce que ça nous a permis de faire, c'est on a notre jeu de données en entrée, jeu de données d'entraînement. On a classiquement un jeu de données de validation aussi, et surtout, en gros, l'entraînement et le test, donc la partie inférence pour la validation de ce modèle, ça se fait quasiment sans code. Mm-hmm. En fait, c'était ça l'intérêt, c'est que ça nous a permis d'aller très très vite. Pour entraîner ce modèle, avoir quelques résultats et s'apercevoir que on arriverait à obtenir des résultats, la conviction que les résultats allaient être relativement bons. Voilà. Donc ça c'était notre première étape.
Mm-hmm. Ensuite.
Et ensuite, l'étape d'après, c'est que on est allé prendre des modèles pré-entraînés sur Hugging Face, donc des modèles de segmentation d'image et des modèles de détection d'objets. Mm-hmm. Avec ces modèles et bien sûr du temps et du fine-tuning, donc tuning d'hyperparamètres et ainsi de suite, on a réussi à obtenir des résultats qui nous ont satisfaits. Et puis voilà, tout simplement.
Du fine-tuning, c'est la technique qui consiste à prendre un modèle déjà entraîné et de régler les paramètres, de lui donner encore un peu plus de données, mais des données personnelles à vous cette fois-ci, pour l'entraîner spécifiquement, enfin ou le réentraîner, le fine-tuner, le paramétrer pour vos données à vous. Comment vous faites la notation des données ? Ça ressemble à quoi physiquement ? Parce qu'une image, je vois bien, c'est un fichier PNG ou quelque chose comme ça, et puis une annotation, c'est quoi ?
Alors l'annotation, ça tombait plutôt bien pour nous. Là, on a vraiment eu de la chance sur ce projet. C'est que quand ils prennent des photos, les opérateurs sur le microscope, et qu'ils tracent, ils tracent toutes les lignes, les polygones et ainsi de suite. En fait, ça génère un fichier XML avec toutes les coordonnées des points qu'ils ont tracés. Donc, on avait déjà un jeu de données labellisé et ainsi de suite. Donc, on a quand même fait une passe, voire plusieurs, pour vérifier que les données labellisées étaient bonnes. Donc, ça, c'est dans la partie data understanding et data preparation. Donc, vraiment pour essayer d'avoir le jeu de données le plus propre possible. Et c'était assez, je dois dire que c'était assez confortable d'avoir un jeu de données comme ça, bien labellisé, et ainsi de suite, et qu'on n'ait pas eu besoin de labelliser toutes les images.
Oui, parce que souvent, les gens qui travaillent sur ces projets-là me disent que c'est 80% du temps du projet, c'est collecter les données, les annoter, s'assurer qu'elles sont propres, etc. Et là, donc là, l'outil qu'elles utilisaient avant, la solution informatique, était déjà, conservait déjà les images et les fichiers XML. Donc vous aviez un historique déjà disponible, c'est ça. Et on parle de combien de photos et d'annotations? Quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers?
Alors en l'occurrence là pour la partie entraînement on avait 2500 à 3000 images à peu près pour l'entraînement, et en l'occurrence on doit être à environ 1000 images par an, je dirais,
parce que évidemment maintenant vous conservez ces images et vous continuez d'entraîner, de fine-tuner le modèle. Mais ça c'est un processus d'amélioration continue, d'entraînement continu.
Exactement, oui.
Est-ce que vous avez eu des problèmes physiques aussi de prise d'image, je sais pas, la lumière, le fond, la qualité de la lentille, l'heure de la journée qui fait que... Pourquoi je pose la question? Parce que j'avais un autre épisode où on parlait d'imagerie médicale et on me disait en fonction du fabricant de la machine médicale, du scanner, ben les images n'étaient pas exactement les mêmes, mais il fallait fine-tuner les modèles vraiment en fonction du fabricant de la machine. Est-ce que vous avez eu des choses comme ça aussi, en fonction de la lumière du jour, en fonction de, je sais pas moi, le fond, de la lentille microscope ou autre?
Non, on a eu de la chance aussi, encore une fois.
Parfois, dans un projet, c'est bien aussi.
Oui, c'est bien, surtout sur les premiers projets. Là, nous, on est encore un peu au début de tout ça et ça nous a grandement simplifié la tâche. Toute l'équipe côté métier avait déjà fait ce travail en amont. C'est-à-dire que ils avaient déjà mis sous le microscope un petit jeu de LED, un petit éclairage LED qui était toujours orienté de la même manière, donc c'est très uniforme. Ils avaient imprimé un support en 3D pour insérer la plaquette, un support blanc aussi pour essayer de limiter les problèmes sur le fond, ce qui n'empêche pas d'en avoir quelques-uns quand même, enfin quelques variabilités, mais on a essayé d'avoir le moins de variabilité possible et en l'occurrence, on n'a pas eu trop de soucis là-dessus.
Et ils avaient déjà fait le travail en amont, ce qui simplifiait le côté IT également. Vous êtes en production maintenant, et on l'a brièvement mentionné, vous continuez de fine-tuner le modèle avec les vraies données qui sont collectées. Donc comment marche ce pipeline? D'où vous partez? Je suppose que vous partez des images annotées, et puis qu'est-ce qui se passe?
Alors, on part des images annotées qui n'ont pas été retouchées. Oui. En gros, on prend que des images annotées qui ont été soit retouchées par les opérateurs, retouchées à la main, soit des images qui n'ont pas été prédites et qui ont été annotées, où c'est un opérateur qui les a annotées à la main. Mm-hmm. Dans tous les cas, on n'utilise pas les images qui ont été prédites par le modèle parce que ça évite toute dérive. Mm-hmm. On les envoie une fois, en gros, avant chaque réentraînement, on les envoie sur AWS. On a un petit script qui réenvoie ça.
Tu restes trois.
Sur S3, exactement. L'objectif, c'est qu'on automatise toute cette partie-là, mais pour l'instant, on n'a pas encore fini d'automatiser toute cette remontée des données dans notre data lake. Ensuite, on a un pipeline MLOps. On a un projet MLOps dans SageMaker. Toujours dans SageMaker Studio. On a beaucoup travaillé avec SageMaker Studio. Donc dans ce projet MLOps, on a deux sous-projets, on va dire. Une petite partie pour l'entraînement du modèle, donc le réentraînement du modèle, où on utilise des pipelines SageMaker. Donc c'est une sorte de grand workflow où on peut préparer les données. Enfin, on a une étape de préparation des données, une étape ensuite d'entraînement du modèle, d'un premier modèle. Ensuite, une étape d'évaluation du modèle, et si le modèle a des suffisamment bonnes métriques, on enregistre. Alors, je sais pas comment dire.
On
enregistre le modèle dans SageMaker. Et on fait ça donc pour nos trois modèles.
Et donc ça, c'est automatique. À partir du moment où les données sont envoyées vers S3, le truc se déclenche, fait l'entraînement, l'évaluation et l'enregistrement des modèles qui montrent une certaine qualité.
Non, on fait quasiment pas ça de manière automatique. Mm-hmm. En tout cas, on le déclenche pas de manière automatique, on le déclenche manuellement.
À la main. Mm-hmm.
Parce que, en fait, avant de déclencher tout ça, en fait, on fait vérifier les images toujours par les métiers, les techniciens mm-hmm. métiers, qui vont valider que les images qu'on entraîne sont les bonnes, sont des images qui sont correctement annotées. Toujours. Mm-hmm. Ça nous permet de s'assurer de la qualité du jeu d'entraînement. Mm-hmm. Pour éviter d'avoir des petites déconvenues après entraînement du modèle.
Et pour mesurer la qualité du modèle, vous avez un jeu de données de référence, c'est toujours le même, et donc vous passez ces X photos à travers le nouveau modèle et pour mesurer la qualité de ces prédictions.
Alors, on a deux niveaux de vérification. Mmh. On a un premier niveau qui est, on va dire, du classique, c'est-à-dire qu'on fait du 80-20. On prend 80% des images pour l'entraînement, on en garde 20% mmh. pour l'évaluation. Ça, c'est toujours pris de manière aléatoire et en fait, ça nous permet de vérifier que nos images, en gros, que notre entraînement donne des résultats corrects sur une grande banque d'images.
Et ça c'est juste pour vérifier la sanité, sanity en anglais, le fait que ce modèle a été entraîné correctement. Mais ça ne permet pas de l'évaluer par rapport au modèle qui existait avant, que vous utilisez en production pour le moment.
Bon, ça nous donne déjà un petit indicateur. En fait, mm-hmm. ça nous donne des indicateurs. Par exemple, sur le modèle de détection d'objets, on a une précision, une métrique sur la précision et une métrique sur le recall, donc le rappel.
D'accord.
Mm-hmm. Et en fait, ça nous donne déjà une indication. En général, qui est plutôt fiable, je dirais, par rapport à ce qu'on obtient après. Et effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de côté un jeu de données, un jeu d'images avec toutes les plus grosses erreurs de notre modèle, tout ce que le modèle a du mal à prédire, et en fait, on fait tourner ce jeu de données. Enfin, on appelle l'ancien modèle avant entraînement, les anciens modèles, pardon, avant entraînement, avec ce jeu de données, donc qui comporte une cinquantaine d'images et qui va s'agrandir, je dirais, au fur et à mesure
avec
du temps. Et après, on le fait tourner aussi une fois qu'on a réentraîné le modèle pour voir si notre modèle arrive à mieux prédire tous ces cas extrêmes sur lesquels on avait des soucis auparavant.
Et donc là, vous avez aussi un peu de code pour calculer le delta, dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien, etc. Il a fallu écrire du code pour comparer les outputs.
Non. Alors cette partie-là, en fait, on l'a fait faire par pareil encore par les métiers. C'est eux qui vérifient. Ils ont D'accord. un jeu de On leur a sorti ça avec un notebook, tout simplement, mm-hmm. Ils ont un fichier SVG mm-hmm. qu'ils ouvrent et où ils voient les 50-100 images avec les détourages et ce qu'on a tracé. Et en fait, ça leur permet d'un coup d'œil de nous dire OK ou pas OK et le modèle, enfin, en gros, de faire une petite évaluation image par image. Et de nous dire le nouveau modèle est 50% plus précis que l'ancien ou ainsi de suite. Alors on leur a fourni des petits trucs pour des petits outils pour répondre rapidement. Mais étant donné que sur ces modèles-là, enfin sur ces images-là, on n'a pas forcément de mesure de référence. En fait, on n'arrive pas à mesurer non plus l'écart avec la mesure de référence.
Et dans SageMaker, il y a un outil, si je me souviens bien, de classification de modèles. C'est celui-là que vous utilisez, d'archivage de modèles où on peut les labelliser.
Effectivement, en fait, ça nous permet de vérifier toutes les versions de chacun des modèles et après un entraînement et de dire, la nouvelle version, je souhaite la conserver et l'installer. En l'occurrence, ça se fait automatiquement. Mm-hmm. Ou je souhaite ne pas l'approuver. En fait, je la refuse. Et ça va éviter que ça l'installe sur nos environnements ensuite de staging
de production.
Et de prod.
Ouais. Et donc là, vous l'archivez ou vous l'effacez. Et vous faites ça pour les trois modèles que vous avez.
Oui. Oui. Justement, c'est grâce aux métriques qu'on ressort de chacun des entraînements qu'on prend déjà une première décision. Et ensuite, après être passé dans les mains des métiers, en fait, on valide ou on invalide nos choix.
comme c'est manuel, vous le faites combien de fois par... Enfin, quel est votre rythme? Je ne vais pas faire des hypothèses de temps. Donc, quel est votre rythme pour renouveler les modèles, réentraîner les modèles?
Notre objectif, c'est de faire ça environ tous les 6 mois. On n'a pas besoin d'entraîner si souvent que ça les modèles, parce qu'on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas forcément des grandes améliorations si on change. Enfin, si on réentraîne, donc peut-être même qu'à l'avenir, ce sera tous les ans, on le fera plus, on verra.
Bon, maintenant vous avez vos modèles qui ont été catalogués comme étant bons, meilleurs que les précédents. Comment est-ce que vous les déployez en production, enfin en staging d'abord et puis en production?
Donc nous, on a un petit peu amélioré les templates de fournis par SageMaker pour s'adapter à nos besoins, parce que nous avons en général, 3 environnements sur lesquels on déploie les modèles. Un environnement de dev, un environnement de staging, un environnement de prod. Alors que les modèles, par exemple, enfin les templates par défaut sont pour 2 environnements, un environnement de staging, un environnement de prod. Et puis on a ajouté des petites fonctionnalités supplémentaires. Donc on utilise ce template dans le projet de déploiement. Et ce projet de déploiement, en fait, il fournit du code pour déployer assez simplement nos modèles d'un environnement à l'autre en utilisant du code pipeline et puis du code build et ainsi de suite. Donc en fait, on est resté très standard avec ce qu'a fourni AWS. Mm-hmm. Et franchement, ça marche plutôt bien. On a une petite étape d'approbation pour passer d'un environnement à l'autre. Une approbation manuelle, et puis voilà. Après, on a, comme je disais, on a un peu tuné ces templates, et ça nous permet par exemple d'avoir sur les environnements de dev ou les environnements de recettes des lambdas qui démarrent et qui arrêtent les modèles tous les matins et tous les soirs pour nous limiter les coûts, qui tournent sur des machines un petit peu moins chères, et ainsi de suite.
Oui, parce qu'une fois qu'un modèle est déployé, ça fait un point d'inférence, comme on dit. Donc ce point d'inférence, il y a un prix par heure, et dans votre cas, il n'y a aucune raison de fonctionner. Enfin, je suppose que vos contrôles de qualité ne sont pas 24 sur 24, 7 jours sur 7, donc vous pouvez arrêter la nuit, les week-ends, les jours de vacances, et puis utiliser, comme tu l'as dit, des machines moins grosses, plus petites, sur les environnements de dev et de staging. Par curiosité, vous utilisez des comptes AWS différents, ou c'est dans le même compte, et vous utilisez simplement des environnements logiques différents?
On a des comptes différents, donc on fait toujours du déploiement cross-account. On a toujours, de manière générale, 3 comptes, un compte de dev, un compte de recette et un compte de prod, qui sont organisés en gros par domaine. Donc, c'est-à-dire que là, on a un domaine recherche et développement par domaine business. Et dans ce domaine recherche et développement, on pourrait avoir plusieurs applications qui sont déployées sur le dev, plusieurs sur la recette et en prod.
Et donc déployer un modèle, ça veut vraiment dire aller copier le modèle de l'environnement de staging ou de dev vers l'environnement suivant, l'installer, enfin le déployer dans SageMaker pour que SageMaker crée un point d'inférence, c'est correct?
Et c'est ça. Alors on a fait un petit peu de tuning aussi là-dessus. À l'origine, normalement, les modèles, ils sont tous hébergés sur le compte qui fait les déploiements, donc notre compte de data science. Et après, en fait, les comptes sur lesquels on déploie les modèles font juste référence au modèle qui est déployé, enfin qui est enregistré sur le compte d'origine. Nous, on a fait un petit changement, c'est qu'on déploie tous nos fichiers sur les environnements. Ça nous évite de s'exposer à des suppressions malheureuses, je dirais.
Oui, bien sûr, si vous modifiez quelque chose dans l'environnement de dev et que la prod utilise une référence vers ce truc-là, c'est dangereux.
Exactement. Mm-hmm. Et on a une autre chose que là sur ce use case qui est intéressante, c'est qu'en fait on a des points d'inférence qui sont déployés sur chacun des environnements. Et comme on doit répondre en temps réel, en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière la machine, on n'a pas pu faire du serverless. On n'a pas pu faire des points d'inférence en serverless, parce que ça, il y a un petit temps de chauffe qui est un peu long. Donc on a fait des points d'inférence qui sont sur des instances démarrées. Je me souviens plus du nom exactement, mais sur des instances à la demande et qui sont démarrées le matin et arrêtées le soir
avec des fonctions lambda.
Exactement. Et pour limiter encore un petit peu les coûts, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un seul endpoint, mais en mode multimodèle. C'est-à-dire qu'on appelle nos trois modèles sur le même endpoint.
Ça veut dire qu'il n'y a qu'une machine en dessous, enfin on ne les voit pas dans SageMaker, mais il n'y a qu'une seule machine qui tourne et qui hausse les trois modèles, au lieu d'avoir trois machines, et donc vous économisez, vous divisez les coûts par trois par rapport à cette solution. Quand vous déployez un nouveau point d'inférence, il a une nouvelle URL ou pas? Je me pose la question parce que je me dis, il y a votre application serverless Step Function qui appelle les modèles, il faut la mettre à jour en même temps que les modèles, ou elle a un nom DNS fixe pour appeler ces points d'inférence?
En fait, les noms des, enfin les URL des modèles ne changent pas. Mmh. Ça va simplement écraser le fichier précédent dans S3.
Ah oui, le modèle est hosté. Ok, d'accord. Tout simplement, effectivement. Donc, il ne faut pas toucher à l'API. Elle, vous ne la redéployez pas. Enfin, pas en tout cas à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle. C'est un autre cycle de vie pour cette application-là. Vous êtes en production depuis un certain temps et vous avez acquis une certaine expérience à réentraîner les modèles, à déployer, à créer du MLOps, de l'automatisation autour de ça. Maintenant que vous voyez que ça marche, qu'il y a un vrai bénéfice pour le business, puisque je répète ce que tu as dit tout à l'heure, hein, on passe de 2 minutes, 2 minutes et demie de temps de travail à moins de 10 secondes, enfin peut-être un peu plus avec l'évaluation, le quick check manuel qui est fait après, mais enfin à quelques secondes. Comment vous voyez le futur? Est-ce que vous avez d'autres idées pour améliorer cette chaîne-là? Ou, basé sur cette expérience-là, vous dites, tiens, il y a d'autres endroits du business où ce genre de technologie pourrait être utile?
Eh bien, les deux, mon capitaine. Donc, en fait, sur cette partie-là, sur ce use case-là, c'était une première partie d'un projet. Maintenant qu'on a validé la faisabilité du projet et que ça donne des résultats qui sont satisfaisants, on va passer dans une deuxième étape où l'objectif, c'est d'aller prendre l'image, prendre la photo directement dans la machine pour que l'opérateur n'ait plus besoin du tout de démonter l'outil, d'aller le mettre sous le microscope, prendre la photo et remonter l'outil sur la machine. En fait, on va essayer d'aller prendre l'image directement dans la machine, sachant que c'est un environnement un petit peu compliqué parce qu'il y a des projections d'huile, de copeaux, de métal et ainsi de suite. Donc il va falloir qu'on voit un petit peu comment on peut mettre ça en place. Et puis ça veut dire qu'il faudra réentraîner le modèle avec ce nouvel environnement et ainsi de suite.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
On est assez confiant.
Il y a deux challenges là. Il y en a un physique d'aller prendre, mettre l'appareil photo dans la machine, etc. Donc, c'est rien d'informatique, c'est presque de la mécanique, j'ai envie de dire, aller mettre l'appareil photo au bon endroit. Et puis après, il faut quand même réentraîner tous les modèles parce que vous n'aurez plus les mêmes conditions d'éclairage, de background, etc.
Exactement. Ce qui veut dire qu'on devra sûrement passer par une petite phase d'annotation parce que cette fois-ci, on n'aura pas d'opérateurs qui auront à noter tout ça avec l'application qu'on avait auparavant. Donc on verra, on va voir comment ça va se passer. On vient d'acter cette semaine, pour être précis, qu'on va passer à la deuxième phase du projet.
Mais l'avantage, c'est que les opérateurs, opératrices ne devront plus démonter la tête, la plaquette, la mettre sur le microscope, faire les photos, la remonter après, etc. Donc c'est un énorme gain de temps pour eux encore.
Exactement, c'est ça l'objectif, hein. C'est vraiment de pouvoir accélérer nos essais, donc de les accélérer d'un côté et en même temps de les rendre le plus reproductible possible, qu'on ait les résultats les plus fiables possibles à chaque fois et qui ne varient pas aussi en fonction de l'opérateur qui s'occupe de l'essai.
Et sans dévoiler de plan business top secret, d'autres champs du possible pour ce genre de technologie dans votre métier?
Oui, bah on a prévu un petit peu dans la même veine que ce projet de caractériser, cette fois-ci ce sera pas les outils, mais de Linux. C'est-à-dire que grâce à des coupes d'inox, on fait déjà des coupes d'inox dans d'autres labos, et les coupes d'inox, elles sont prises en photo via un microscope, et en gros on fait un peu de la métallographie dans ce labo. Alors je connais pas très bien ce use case parce qu'on va le lancer dans les semaines à venir, mais l'objectif c'est de calculer la taille des grains du métal ou de compter le nombre de grains du métal, de voir les différentes, enfin calculer les différents types de grains du métal aussi sur une coupe spéciale d'un inox.
Voilà, souvent quand je rencontre des clients dans des conférences ou dans des user groups, on me dit oui, mais c'est quoi les vrais cas d'utilisation de l'intelligence artificielle? Ben voilà, un cas extrêmement concret dans l'industrie, dans la métallurgie, de comment l'apprentissage machine ou l'intelligence artificielle et les réseaux neuronaux peuvent aider à faire gagner du temps sur du contrôle de qualité. C'est chez Ugitech, qui fait partie de Swiss Steel Group, et les explications très claires de Cédric Mauduit, qui est architecte de solutions là-bas. Merci Cédric pour tes explications c'était super clair en fait. En tout cas, moi j'ai bien compris, j'espère que les auditeurs aussi. Merci pour tes explications. Merci à vous d'avoir écouté le podcast en WS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.